Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Le président de SOS Racisme déplore l'effondrement du Front Républicain après le second tour des élections législatives en France. Le RN a obtenu un score historique lors de ce scrutin. Nous écouterons Dominique Sopo. Emmanuel Macron a refusé ce matin la démission de la première ministre Elisabeth Borne, un refus selon l'Élysée afin que le gouvernement reste à la tâche. Une première version de la nouvelle constitution a été remise au président tunisien. Le chef de l'État souligne que le projet n'est pas définitif. La Belgique a rapatrié 16 enfants et 6 femmes d'un camp du nord-est de la Syrie. Ils étaient détenus depuis la chute du califat autoproclamé du groupe État islamique. La fête de la musique souffle sa 40e bougie, événement créé par Jack Lang en 1982. Il était alors ministre de la Culture sous la présidence de François Mitterrand. Jack Lang sera l'un de nos invités. Il reviendra sur la naissance de cet événement désormais international. Le président de SOS Racisme regrette une étape supplémentaire dans la banalisation de la présence de l'extrême droite dans la vie politique française. Cela après le second tour des élections législatives dimanche dernier. Le Rassemblement national a obtenu 89 sièges à l'Assemblée nationale, un score historique pour ce parti. Entretien avec le président de SOS Racisme, Dominique Sopo.
Cela n'est pas sans rapport avec l'abstention, la banalisation extrême du Rassemblement national qui réalise là un score historique en nombre de voix, en pourcentage de voix. On l'a vu au premier tour avec près de 20% des voix qui est un score exceptionnel à des élections législatives pour l'extrême droite et une absence ou une faiblesse, c'est le moins qu'on puisse dire, du Front Républicain qui explique eh bien que en conséquence logique de ce score relativement important, eh bien, l'extrême droite fait une entrée en force à l'Assemblée nationale, ce qui est évidemment inquiétant, puisque nous allons avoir au sein même du lieu où se fabrique la loi, des députés qui, par dizaines, sont animés par la contestation de la République et la haine de l'autre.
Cet effondrement, comme vous le qualifiez, du Front Républicain, comment l'expliquez-vous? Comment le comprenez-vous?
On l'explique par le fait que la permanence dans la vie politique de l'extrême droite a fini par produire des effets déjà extrêmement anciens dans plusieurs familles politiques, notamment à la droite, qui déjà depuis Nicolas Sarkozy a cédé très largement à la nécessité d'un barrage absolu à l'extrême droite. Et on a vu quand même dans cette campagne présidentielle un Éric Ciotti expliquait qu'il préférerait voter Zemmour plutôt que Macron dans un second tour, ou une Valérie Pécresse qui a été jusqu'à reprendre des thématiques de l'extrême droite en citant notamment la théorie raciste et complotiste du grand remplacement dans l'un de ses meetings. On voit bien par ailleurs que la NUP elle-même s'est lancée massivement dans une consigne qui est celle d'ailleurs de Jean-Luc Mélenchon, hein, qui n'est pas une voie pour l'extrême droite. Alors, ce qui au moins a la clarté, a le mérite de la clarté dans le refus de l'extrême droite, mais qui laisse ouvert la possibilité de voter blanc ou de voter nul dans un duel dans lequel il y aurait un candidat d'extrême droite, alors que le Front Républicain, c'est de dire qu'on vote de toute façon pour le candidat qui est opposé à l'extrême droite. Et enfin, une majorité présidentielle qui, après avoir appelé elle-même au Front Républicain lorsqu'il fallait enjoindre à chacun de voter en faveur d'Emmanuel Macron, s'est comportée avec un cynisme quand même assez spectaculaire dans cet entre-deux-tours des élections législatives en renvoyant dos à dos le RN et la NUP dans toute une série de situations, ce qui est totalement irresponsable et qui explique finalement eh bien que globalement nous sommes dans une situation politique dans laquelle nous avons été face à des camps opposés, adversaires, hein, la droite et centre-droit représentés par Macron et la gauche représentée par la NUP, qui n'ont pas eu le réflexe de voter les uns pour les autres lorsque était en lice un candidat du Rassemblement national. Je trouve cela assez inquiétant et une étape supplémentaire dans la banalisation de la présence de l'extrême droite dans la vie politique française.
Et il s'agit désormais de repenser les stratégies à adopter face à l'extrême droite, c'est ce que vous demandez à SOS Racisme.
Ah, bien sûr, il y a d'abord une clarté sans doute à retrouver dans la scène politique, mais pour retrouver cette clarté, il faudra sans doute que les antiracistes réussissent à retrouver du peps, réussissent à être à nouveau en dynamique, ce qui n'est pas forcément ce qui a caractérisé ces combats ces dernières années, hein, pour être très clair. Et donc, il faudra penser à comment retrouver une autorité vis-à-vis des partis politiques dans leur comportement vis-à-vis de l'extrême droite, comment aussi retrouver des stratégies de mobilisation de la jeunesse dans une citoyenneté qui va jusqu'au vote, hein, même si, contrairement à ce que disent souvent les gens, il n'y a pas une dépolitisation de la jeunesse, mais il y a quand même des formes d'engagement qui tourne le dos au vote, et également un grand trouble sans doute vis-à-vis de ce qu'est l'extrême droite et de la nécessité de la combattre de façon, j'allais dire, inconditionnelle dans les différentes configurations électorales dans lesquelles on pourrait se retrouver. Et on voit bien que ces dernières années, la banalisation de l'extrême droite fait qu'aujourd'hui, sans doute pour une partie des jeunes générations, le danger du RN est bien compris. Il voit bien que le RN est un parti raciste, est un parti, opposé à la démocratie, mais ne le distingue pas forcément suffisamment d'autres familles politiques vis-à-vis desquelles des critiques seraient apportées.
C'est donc ce rappel qu'il faut faire.
C'est un rappel qu'il faut évidemment faire, parce que la politique, c'est aussi beaucoup de pédagogie, c'est beaucoup de socialisation politique, et on peut dire que le résultat auquel on aboutit doit aussi être vu de la part des grandes familles politiques françaises comme leur échec, parce que nul ne peut aujourd'hui se satisfaire d'un résultat qui quand même est une honte pour la France. La France, qui est le pays de la Révolution française, 29 députés avec l'étiquette Rassemblement National, dont je rappelle qu'il est un parti fondé sur la nostalgie de Vichy et de l'Algérie française, hein, pour l'essentiel, eh bien aujourd'hui, avoir un score du Rassemblement National à un tel niveau, qui plus est dans un scrutin majoritaire qui ne lui est pas spécialement favorable normalement, eh bien il y a de quoi être inquiet. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de pays européens doivent regarder avec une certaine stupéfaction le résultat des élections dans notre pays.
Le président de SOS Racisme, Dominique Sopo, et après le second tour des élections législatives, Emmanuel Macron a refusé ce matin la démission de la première ministre, Elisabeth Borne. Un refus pour que, selon l'Élysée, le gouvernement reste à la tâche. Le chef de l'État reçoit aujourd'hui et demain les représentants de chaque groupe politique représenté à l'Assemblée nationale. Quant à Elisabeth Borne, elle va réunir l'ensemble du gouvernement à Matignon. Ce sera en début d'après-midi. Une première version de la nouvelle constitution a été remise au président tunisien, nommé le mois dernier à la tête de la Commission nationale consultative pour une nouvelle république. Sadek Belaïd a présenté le document au palais présidentiel de Tunis. Le chef de l'État souligne que le projet n'est pas définitif et que certaines sections peuvent être révisées ou faire l'objet d'une réflexion plus approfondie. Selon son propre calendrier, Kais Saied a jusqu'au 30 juin pour approuver ou modifier le projet de constitution. Il sera soumis par référendum au vote des Tunisiens le 25 juillet prochain. Le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, est en Égypte. Il s'entretient aujourd'hui avec le président Sissi, la première étape d'une tournée au Moyen-Orient. Elle précède le voyage du président américain Joe Biden dans la région le mois prochain. La Belgique a rapatrié 16 enfants et 6 femmes d'un camp du nord-est de la Syrie. Ils étaient détenus depuis la chute du califat autoproclamé du groupe État islamique. C'est la seconde opération du genre après la première vague de 10 enfants et 6 mères amenées de Syrie en Belgique en juillet dernier. La fête de la musique, aujourd'hui, une fête qui souffle sa 40e bougie, événement créé par Jack Lang en 1982. Il était alors le ministre de la Culture sous la présidence de François Mitterrand. Alors depuis, cette fête a été exportée dans plus d'une centaine de pays. Une fête qui se déroule aujourd'hui, notamment à l'Institut du Monde Arabe, institut présidé par Jack Lang. Au micro de Radio Orient, il revient d'abord sur la naissance de cet événement, désormais international, et nous dit ce qu'il ressent à l'occasion de ce 40e anniversaire, Jack Lang.
Beaucoup de joie, évidemment, de la reconnaissance, surtout à l'égard de tous ceux qui, année après année, en ont été les artisans. Bon, j'ai lancé l'idée, certes, mais elle n'aurait pas pu devenir ce qu'elle est s'il n'y avait pas eu cette réponse extraordinaire des amateurs de la musique, des passionnés de la musique, des musiciens ou des artistes, si les citoyens de France et aujourd'hui de beaucoup de pays dans le monde, nous en étaient pas emparés pour en faire un événement, j'allais dire, hors du commun, c'est-à-dire hors du temps, un peu particulier, qui est entré dans les têtes, dans les mœurs, comme une sorte de rituel annuel. Donc, mon sentiment, c'est vraiment celui-là, de dire merci à tous ceux qui, année après année, génération à génération, ont été les co-auteurs, les co-inventeurs d'un événement qui est le leur, qui n'est pas le mien spécialement.
Mais comment cette idée est-elle née chez vous ?
Ça, elle est née assez spontanément, je dois dire, parce que elle fait partie, on dit aujourd'hui, de mon ADN, enfin de mon imaginaire personnel, c'est-à-dire que je suis engagé, vous le savez peut-être, dans la vie artistique, culturelle, théâtrale et autres, depuis très très longtemps, depuis que je suis étudiant, et j'ai toujours eu la passion des rassemblements, des fêtes, des moments de communion. Et au Festival mondial du théâtre que j'ai créé à Nancy, nous avions souvent, nous sommes appropriés la rue. C'était pas habituel à l'époque. C'était assez peu commun que le théâtre de rue, les fêtes de rue, sur les places. Je m'inspirais en particulier pour Nancy de Jacques Callot et du théâtre de la Comédie de l'Arc. Bref, cette idée que on doit se retrouver de temps à autre autour de l'art et du théâtre et de la musique sur les places, dans les rues, était en moi depuis longtemps. Simplement, lorsque je suis devenu ministre de la Culture en 81, quelques mois après mon entrée en fonction, je me suis dit avec mes amis proches, nous avons beaucoup travaillé depuis mai 81 pour les artistes, pour les créateurs, la loi sur le prix du livre, la réforme du cinéma, la politique musicale. Et si nous inventions quelque chose qui ferait que les citoyens seraient eux-mêmes créateurs d'un événement. Et donc l'idée est venue très vite que la musique était l'art qui permettait précisément cette réalisation d'une telle idée. On a lancé un appel. C'était risqué quand même. J'ai eu à l'époque un certain trac, je dois vous le dire. Il n'était pas certain que les gens répondent. Puis finalement, dès la première année, dans les places, sur les rues, dans les gares, on a vu surgir des groupes de musiciens. Alors c'était pas encore le triomphe, mais c'était déjà un beau commencement, à tel point qu'on a décidé de rééditer l'événement l'année suivante.
Et c'est donc une idée française qui s'est exporté dans le monde, et notamment dans le monde arabe aujourd'hui.
Ah oui, c'est comme je suis très profondément internationaliste ou universaliste, c'est la chose qui peut-être me réjouit le plus aujourd'hui, de penser que cette petite idée simple, d'abord née en France, a fait le tour du monde. D'abord de l'Europe, puis ensuite des États-Unis, de la Chine, de l'Asie, et naturellement du monde arabe. Au Liban, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, partout, même dans les pays du Golfe, en Arabie c'est absolument impressionnant, partout dans le pays. Donc c'est quelque chose qui est vraiment touchant, de penser que c'est devenu finalement, j'ose dire, c'est un peu prétentieux, c'est un peu en figurique plutôt, que c'est le plus grand festival de musique du monde, par le nombre de participants, peut-être 800 millions de personnes. C'est pas nécessairement le meilleur, parce qu'il y a beaucoup de fausses notes, il y a beaucoup de couacs.
C'est aussi ce qui fait son charme.
C'est son charme aussi. C'est, on se retrouve, on se rencontre, on s'embrasse, on danse, et on se respecte aussi. On respecte les uns les autres, on respecte les différents genres musicaux. Et je suis très heureux qu'aujourd'hui, dans les pays arabes, la fête de la musique soit devenue aussi un moment fort.
Et vous présidez aujourd'hui l'Institut du monde arabe, et cela a une signification particulière pour vous, la célébration de cette fête au sein de cet institut que vous présidez.
Oui, naturellement, chaque année nous essayons de braquer les projecteurs sur un aspect ou sur un autre. Cette année, c'est l'anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Nous avons pensé que ce serait bien que d'inviter toute une série d'artistes algériens venant d'Algérie ou de France ou d'ailleurs. Et donc l'événement qui se déroulera à l'Institut sera dédié à l'Algérie libre, à l'Algérie indépendante. En même temps, il y a d'autres événements qui vont se produire à Lima. Par exemple, Didier Varro, l'homme de la musique de France, Radio France, a inventé un char de la musique qui va traverser tout Paris, qui se rendra de la Statue de la Liberté à Lima. Ils viendront à Lima vers 19h, 19h30, je crois, avec plusieurs rappeurs, avec d'autres musiciens, je ne connais pas le détail, mais ce sera aussi une manière pour Radio France de saluer l'événement et de rappeler que l'un des premiers artistes à soutenir la manifestation, c'était Jacques Higelin. Jacques Higelin, qui était un personnage incroyable, avait loué un camion déployable et avait traversé la ville, appelant autour de lui des musiciens, des chanteurs. Et c'est un peu en mémoire de Jacques Higelin que Didier Varro a conçu cet événement itinérant à travers Paris. Et Lima sera un des lieux d'accueil de ce char.
Le président de l'Institut du monde arabe, l'ancien ministre de la Culture, Jack Lang. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient, précisément midi 17. À midi 30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le Flash, 17h30 pour votre journal. Très bon après-midi à l'écoute de Radio Orient.